Studio Tamani, voici nos informations en français.
8h à Kita, vous écoutez Studio Tamani, bonjour et bienvenue. Voici les titres de cette édition matinale. L'arrêt du train voyageur a paralysé la vie à Kita. Des cheminots en colère dénoncent une crise sans fin. Nous sommes à un mois de la fête de Tabaski et les populations déplorent déjà la cherté des prix des moutons. Les commerçants expliquent cette situation par la crise sécuritaire et la cherté de l'aliment bétail. Le dossier de la rédaction s'intéresse aujourd'hui au port du turban. Au-delà de l'aspect vestimentaire, il a une signification dans les us et coutumes de certaines communautés. Les détails dans ce journal qui vous sera présenté par Assetou Kanté, mise en onde Mamadou Ouattara. Bonjour et bienvenue. L'arrêt du train a eu d'énormes conséquences sur la vie des populations à Kita. Le problème de logement, l'incapacité de payer des ordonnances ou les prix des condiments, ce sont entre autres des difficultés auxquelles les cheminots de cette localité font face. Ils invitent le gouvernement à concrétiser les efforts pour la reprise rapide du trafic ferroviaire. Notre envoyé spécial Mahaman Babakunta s'est intéressé au sujet. Voici son reportage.
Nous sommes à Kita Gare. Comme chaque matin, les cheminots se retrouvent sur place pour échanger sur l'actualité ou sur leurs difficultés. Ils estiment que l'arrêt du trafic ferroviaire a plongé certaines familles dans la déchéance.
Tout ce qu'on veut aujourd'hui, c'est de faire marcher le train. Avec l'arrêt du train, ça nous a donné beaucoup de choses. Les commerçants, les paysans, tout le monde a eu la souffrance.
De l'arrêt du train à maintenant, la gare de Kita a perdu son âme. Ça a causé plusieurs divorces et même des morts. La reprise du train sera vraiment un soulagement.
Âgé de 65 ans, cet ancien conducteur de train a pris une retraite anticipée suite à l'arrêt du train. Il affirme que toute sa vie était liée au trafic ferroviaire.
Tu sais, c'est pénible. Avec l'arrêt de ce train-là, cela a donné trop de calvaire aux cheminots. Chaque matin, on est obligé de venir s'asseoir devant notre bureau. Là, on se côtoie. On est à la merci de Dieu. Dieu sait faire les choses.
La reprise du train est au centre des préoccupations des habitants de Kita. Pour eux, les activités du train jouent un rôle inestimable dans l'économie locale.
L'arrêt du train nous a trop impactés. Vivement son redémarrage.
Si tu vois les transporteurs négliger les gens, c'est dû à l'absence du train. En plus, les tarifs des cars sont très chers.
Avec le train, il y avait beaucoup de clients. En plus, ça nous facilitait nos allers-retours sur Kai.
Pendant ce temps, le gouvernement annonce aussi la reprise des trains voyageurs pour bientôt. De Kita, Mahaman Babakunta, pour Studio Tamani.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Sport football éliminatoire Cannes Côte d'Ivoire 2023. Les Aigles du Mali ont battu hier les Crocodiles du Nil du Soudan du Sud par 3 buts à 1 en infériorité numérique pendant une bonne partie de la seconde période. Les protégés de Eric Sekouchel se sont imposés et occupent toujours la tête du groupe G. Les buts maliens ont été respectivement marqués par Mohamed Camara, Sekou Koïta et Aliou Dieng. Les détails avec Omar Ouégalo.
Le début de cette rencontre Soudan du Sud Mali a été laborieux pour les Aigles du Mali. Les Maliens seront menés dès la 29e minute suite à un but marqué contre son camp de Kiki Kouyaté. Au retour des versières, l'entraîneur malien Eric Sekouchel change de tactique. Il remplace son meneur de jeu Yves Bissouma par Néné Dorzales. Quelques minutes plus tard, Mohamed Camara égalise à la 58e minute. À la 78e minute de jeu, l'attaquant malien Ibrahim Kone est expulsé quelques minutes seulement après son entrée en jeu. Malgré cette infériorité numérique, les Aigles gardent la maîtrise du jeu. Sekou Koïta marque le deuxième but malien à la 91e minute, avant que Aliou Dieng n'anéantisse définitivement les espoirs du Sud Soudanais à la 95e minute. Deux victoires en autant de sorties, les Aigles réunissent donc un parcours sans faute après deux journées dans ces éliminatoires. Les poulains d'Eric Sekouchel ont marqué 7 buts et encaissé un seul. L'équipe malienne détient la meilleure attaque en ce début des éliminatoires. La prochaine sortie des Aigles est prévue pour le 19 septembre prochain au stade du 26 mars. Les Mali jouera contre la Gambie.
Autre sujet, le recensement général de la population et de l'habitat 5e génération a démarré mercredi sur presque toute l'étendue du territoire national. L'opération est initiée par l'Institut national de la statistique. De Bafoulabé à Ansongo, en passant par Yoroso, les recenseurs recueillent des données sur les ménages et sur le nombre d'habitants par ménage. Les détails avec Idrissa Sako, avec le concours de nos correspondants.
Les opérations de ce 5e recensement général des populations et de l'habitat RGPH5 ont commencé ce mercredi 8 juin 2022 dans le cercle de Yoroso. Environ 400 agents recenseurs sont répartis entre les 9 communes de Yoroso pour cette opération. Même exercice à Bafoulabé où le préfet du cercle a procédé au lancement officiel du recensement. C'était en présence du président du conseil de cercle et des 64 chefs d'équipe. Plus de 300 agents recenseurs ont été déployés sur le terrain dans les 13 communes du cercle pour une durée d'un mois. Au nord du pays, précisément à Ansongo, les travaux du recensement général de la population et de l'habitat ont débuté ce mercredi. Selon le superviseur local, cette opération s'effectue sur toute l'étendue du cercle. L'objectif de ce recensement est de déterminer l'effectif de la population totale du pays et sa structure par sexe et par âge, ainsi que leurs caractéristiques sociales, économiques et culturelles. Il est mis en œuvre par l'État à travers l'Institut national de la statistique et va durer un mois.
Parlons esclavage. La 2e édition du Forum de lutte contre la pratique s'est tenue hier à Bamako, organisée par l'Association pour la consolidation de la paix, le développement, la promotion et la protection des droits de l'homme, TEMED. L'objectif est d'éradiquer l'esclavage au Mali. Selon ses responsables, cette lutte doit se faire à travers des sensibilisations sur la pratique. Les détails dans ce reportage de Sita Sidibé.
Ce forum, organisé en partenariat avec le Bureau international du travail, vise à inciter les autorités à l'adoption d'une loi afin de bannir cette pratique. Rechette Walet Altanata est la vice-présidente de TEMETI.
Ce forum est la suite logique du premier forum que nous avons organisé avec nos partenaires du BIT, du Bureau international du travail. C'est un forum pour sensibiliser et également faire le plaidoyer auprès de nos autorités pour l'adoption d'une loi qui criminalise l'esclavage au Mali.
Ibrahim Assissé est le coordinateur national du projet de lutte contre l'esclavage au Mali. Pour lui, l'abandon de cette pratique passe essentiellement par la sensibilisation des communautés à travers les médias et des forums.
Pour lutter contre cette pratique au Mali, c'est à travers beaucoup plus les activités de sensibilisation à l'endroit de la société civile que nous organisons d'ailleurs non seulement en termes de séances communautaires mais aussi en termes de sensibilisation dans les radios communautaires mais également surtout beaucoup plus le plaidoyer.
Les représentants de la société civils et les religieux ont pris part à ces forums.
Sur un tout autre sujet, les plateformes Djiribakoro, Dougoutiki Blanc et Faut que ça change dénoncent des insuffisances au niveau de la justice malienne. Cette déclaration a été faite dimanche dernier lors d'une conférence de presse à Bamako. Selon les responsables de ces plateformes, il est actuellement très difficile de parler de la justice dans le pays. Pour eux, en plus de cela, il n'y a pas de décision dans les jugements. Les plateformes invitent les autorités à revoir l'appareil judiciaire du pays. Écoutons Sidiki Kouyaté, porte-parole des plateforme.
C'est très difficile de parler de la corruption au sein de l'appareil judiciaire. Quand les faits sont détournés, cela nous pousse carrément à croire que, en tout cas, s'il n'y a pas la corruption, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Et c'est nous, on ne peut que dire tout simplement qu'il y a la corruption. Parce que imaginez comment on peut comprendre que dans cet état où il n'y a pas de jugement, et s'il y a de jugement, il n'y a pas de décision, et s'il y a des décisions, les décisions ne sont jamais exécutées, il n'y a pas la formation continue. Normalement, chaque juge doit être soumis à des formations chaque 6 mois. Il faut que l'État aussi fasse tout pour former les juges, qu'on aide dans la spécialisation et peut-être qu'il faut recruter également. Le système a tellement pris du terrain que finalement on se pose la question quel juge il faut prendre et qui le sait quel juge.
8h passées de 8 minutes, nous poursuivons ce journal. Plusieurs personnes déplorent la cherté des prix des moutons à quelques semaines avant la fête de Tabaski. Sur le marché, le prix de tête varie entre 60 000 à 500 000 francs CFA. Selon certains commerçants de bétail, la situation s'explique par l'insuffisance des animaux liés à la crise sécuritaire et la cherté de l'aliment bétail. Notre reporter Aboubakrin Ag Mohamedine Yatara a fait le tour dans certains points de vente, suivant son reportage.
Au niveau du marché de bétail de Faladjessema, communément appelé les grands garbals, des dizaines de moutons de toutes les qualités sont visibles dans presque tous les points de vente. Pour les vendeurs, les prix sont jugés abordables vu le contexte du pays.
Mais il y a des clients qui viennent un peu, un peu.
Le prix des moutons, c'est comme
à... c'est abordable, c'est abordable. De 70 000 à 100 000, à 10 à 200 comme ça. Il n'y a pas assez de marché d'abord.
Bon, notre difficulté aujourd'hui, c'est à cause de l'allemand de bétail. Les prix sont augmentés.
Donc vraiment, cette année, ça nous pose beaucoup de problèmes depuis. Il n'y a pas de marché aussi.
Bon, avant, on peut vendre 20 ou 21 ou 30. Mais en ce moment, vraiment, pour vendre même 2 ou 3, ce n'est pas facile.
Pourtant, cet avis n'est pas partagé par les clients. Les prix proposés par le vendeur sont excessivement chers. Fanake Sissoko, un client, déplore la flambée des prix des moutons.
Les temps sont durs. Je n'ai pas eu au prix voulu, mais j'ai eu quelque chose à un prix abordable. Les prix varient quand même. Ça peut aller à 80 000 jusqu'à 90
000. Notons que la cherté des bétails est constatée dans plusieurs autres régions du pays, alors que nous sommes à un mois de la fête de Tabaski.
On en vient à notre dossier du jour. Le turban est porté par certains pour se protéger contre le vent ou le soleil ou par simple habitude. Mais au-delà de son usage quotidien, le turban a une signification dans les us et coutumes de certaines communautés. Pour avoir le droit de le porter, il faut passer par une cérémonie coutumière appelée cérémonial du port du turban. Elle est organisée depuis des siècles dans notre pays. Chez certaines ethnies, notamment les Maures, les Songoy, les Tamashek, l'accomplissement de ce acte marque le début d'une nouvelle vie et engendre de nouvelles responsabilités pour le nouveau marié. Découvrez le cérémonial du port du turban lors d'un mariage avec Abdoulaye Touré.
Nous sommes à Moribabougou, à une dizaine de kilomètres de Bamako. Ici, dans la famille Meiga, l'ambiance est palpable. C'est le mariage des deux frères de la famille. Il est bientôt 16h et c'est l'heure du cérémonial du port du turban. Mais au préalable, les mariés sont soumis à un rituel au henné. Cette pratique ne concerne que les visages, les mains et les pieds. Nana Alpha, chargée du rituel du henné.
C'est une sunna. Le jour du mariage de Fatoumata, une des filles du prophète, paix et salut sur lui, il a donné aux femmes arabes venues au mariage du henné pour qu'elle la mette à la mariée. C'est un arbre du paradis.
À présent, place à la cérémonie du port du turban. Les mariés sont installés sous la bâche, entourés des parents, les patriarches et amis. Ils sont rapidement vêtus des manteaux noirs, munis d'un bâton. Avant de poser le turban sur leur tête, le tissu passe minutieusement tour à tour dans les mains des marabouts qui sont chargés de la cérémonie. Ils y vont de leurs prières ou douaou pour fortifier les mariés. L'Arabie Samber, initié, nous explique.
Le turban, là, si tu le décortiques, il y a une barre, ça c'est Alif. Il y a deux lames. Et en haut, il y a Al-Hay. Ça fait Allah. Allah, c'est le plus grand nom de Dieu. C'est ce qu'on dépose sur sa tête. Ce manteau-là, c'est pour on demande à Dieu de le protéger dans ce nouvel élan-là qu'il vient d'entreprendre. Donc le bâton, là où le bâton là, c'est pour commander, pour diriger, mais on ne fera pas avec.
Le turban porté place maintenant au chant cantique. Chaque chant est à la gloire de Dieu et une prière à l'endroit des deux nouveaux mariés, nous confesse Samber.
Les lectures qu'on a eu à faire, c'est des lectures, c'est des éloges du bon Dieu et du prophète. C'est des cantiques, voilà, pour à Dieu et à son prophète. Donc ça, pour toujours demander la bénédiction dans le mariage, pour qu'il y ait vraiment que ce soit un mariage de continuité.
C'est un sentiment de joie et de fierté, nous confie Mahmoudou Meiga, l'un des nouveaux mariés. Il est conscient des responsabilités qui lui incombent à partir de maintenant.
Vous quittez dans le monde de célibataire et vous venez en même temps dans un autre secteur. Maintenant, on est chef de famille, donc aujourd'hui, c'est notre responsabilité. C'est une responsabilité qui est différente de l'autre d'hier. Même les conseils dont on donne pendant la cérémonie, ce sont ce genre de conseils dont on c'est à travers ton comportement de tous les jours.
Ce cérémonial a notamment pour objectif de faire comprendre aux jeunes mariés qu'ils viennent de quitter l'étape de la vie des garçons pour celle d'un homme marié et responsable.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Actualité régionale, la direction régionale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances a procédé mercredi au lancement de la quinzaine de l'environnement à Ségou. Le thème pour cette 23e édition est une seule terre. Plusieurs activités ont marqué cette cérémonie. Il s'agissait notamment du curage des caniveaux, du marché de Médine, de la remise des kits de salubrité au lauréat du concours École propre et des sketchs de sensibilisation en lien avec le thème. Il est 8h passé de 14 minutes, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi, mais vous pouvez écouter toutes ces informations sur notre site web au www.sudotamani.org ou en appelant gratuitement sur Viamo au 37 321. Restez à notre écoute. Dans quelques minutes, ce sera la version Bambara de cette édition et ce sera une présentation de Aissata Diarra, mais avant tout de suite le magazine Tous les enfants du Mali. Notre magazine Tous les enfants du Mali s'intéresse aujourd'hui au jardin d'enfants. Ce centre de développement de la petite enfance se multiplie de plus en plus à Bamako. C'est du moins le constat pour des spécialistes de l'éducation préscolaire. Cette nouvelle famille agrandie aide les enfants à se socialiser et à s'initier progressivement à la scolarité future. Cependant, ils déplorent aujourd'hui le non-respect de la procédure de la création et de la méthode pédagogique enseignée aux tout petits. Moussa Malé Sissoko a sillonné quelques jardins d'enfants.
Il est 10h, nous sommes au jardin d'enfants Aurore des Savoirs à Sébéninkoro, en commune 4 du district de Bamako. C'est l'heure de l'initiation des tout-petits de la grande section au calcul. Ici, on compte 80 enfants répartis entre trois sections, à savoir la petite, la moyenne et la grande. James Drac, directeur du jardin Aurore des Savoirs.
Je sais compter de 0 à 20.
Nos cours se passent en français et en anglais. Au temps de la pause, les enfants se reposent, ils mangent, ils retournent dans la grande salle. Là, c'est la salle des jeux et les enfants jouent là-bas. Les trois sessions, on écrit sur les ardoises. La deuxième session et la troisième session ont des cahiers de deux lignes.
Cependant, au jardin d'enfants Aïcha de Torokorobougou, le programme est un peu différent. Ici, l'accent est mis sur l'enseignement de l'arabe, précise la directrice du jardin, Madame Kouyaté Assetou Kouyaté.
Chez nous, on a six classes, deux sections, des petits, deux sections, des moyens et puis deux sections des grands. On les apprend des poésies et puis des langages quoi. En bambara, en français et puis en arabe. C'est dans la grande section qu'on utilise les ardoises. Ce sont dans la petite section et puis la moyenne section. On utilise des cartes de feuilles. C'est en petite section, on fait les leçons là, en bambara.
Harry Kamate est le directeur du jardin d'enfants Mami Belle à l'ACI 2000. Il rappelle que ses éducatrices scolaires excitent la curiosité des enfants par des contes, légendes et histoires réelles.
Le jardin a été créé en octobre 2001. Donnons l'enseignement est en français. Donc à 8h, d'abord ils font des exercices, ils ont des jeux dans la cour. Ils font cela pendant au moins 30 minutes. À partir de 8h30 maintenant, ils entrent en classe. Nous faisons du langage et maintenant nous faisons l'initiation à l'écriture et l'initiation aux mathématiques.
Toutefois, le regard des parents est différent aujourd'hui sur l'utilité des centres de développement de l'éducation de la petite enfance.
On ne peut pas estimer l'importance des études, à plus forte raison le jardin. La base de l'école, c'est les jardins, c'est très important. Pour moi, maintenant, ça n'a aucun sens. Les gens ont changé, c'est une quête de profit.
La Direction nationale de l'éducation préscolaire et spéciale indique que la décision de la création d'un jardin d'enfants est délivrée par le gouvernorat, puis le centre d'animation pédagogique CAP supervise. Pour Abdoulahi Maïga, chef de la section institution préscolaire, les jardins d'enfants pullulent à travers la ville sans autorisation des autorités compétentes.
Le CAP doit pouvoir répertorier tous les jardins alors qu'ils sont dans sa circonscription. S'il voit une nouvelle création, il doit aller voir un programme qui s'appelle Programme pédagogique des centres de développement de la petite enfance. Malheureusement, ce document est méconnu. On leur demande, c'est-à-dire, d'associer le français. Mais pour ce qui est de l'anglais et puis les autres, nous le déconseillons.
Rappelons que l'éducation préscolaire s'adresse aux enfants de moins de 6 ans et la durée est de 3 ans. À l'heure de la descente, midi, un parent ou un membre de la famille vient chercher l'enfant.